juste qu'il nous parler de nos cœurs et nous faire du bien, nous permettre de mieux comprendre sa parole encore un peu aujourd'hui et nous permettre d'avancer davantage avec lui. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Et nous avons chanté aussi cette lumière qui vient du Seigneur, hein, ce phare, qui est une belle image. Moi, je dis que c'est un beau verset, ça, dans la parole de Dieu. C'est une bonne certitude. C'est une belle assurance de savoir que le Seigneur éclaire nos pas. Parce que comment avancer dans le noir sans éclairage? Est-ce que vous avez déjà fait le test dans le noir d'essayer de vous repérer, d'avancer, de ne pas se cogner? Alors moi qui suis bien voyant, j'aurais énormément de mal à me diriger dans mon environnement. Peut-être plus facilement si je l'ai mémorisé, mais dans un environnement que je ne connais pas, je serais complètement perdu. Je ne saurais pas me retrouver, je ne saurais pas me diriger, surtout sans risque de chute, de blessure, d'égarement, voire de mauvaises rencontres. La lampe représente la parole de Dieu au sens figuré, hein, bien sûr, hein. Il est écrit que l'Esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, puisque nous avons reçu sa parole. Dans Proverbes au chapitre 20 et verset 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La lampe symbolise le témoignage des croyants qui éclaire les âmes perdues dans les ténèbres. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont considérés comme étant dans les ténèbres, étant dans le noir, dans l'égarement, dans la méconnaissance. Dans Jean au chapitre 5, verset 35, Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Il est bon d'être en présence de la lumière, ça réconforte. Dans Matthieu 5, verset 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, elle est tirée de la parole de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Mais les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous. » Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut close. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Légitime. Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, quelle est la signification de cette parabole? Pour les Juifs, l'idée du royaume de Dieu était liée à l'idée d'un festin. Le point culminant des noces juives se situe lorsque l'épouse entre dans la maison de l'époux et devient membre de sa famille. De cette cérémonie découlent deux coutumes. Premièrement, le festin a lieu dans la maison de l'époux, comme pendant les noces de Cana. Et deuxièmement, l'époux va chercher l'épouse en cortège avec des lampes, de la musique, des chants, pour ramener l'épouse dans la salle des noces. Mais il y a une autre particularité. Les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège et être admises au festin sans invitation particulière, à condition d'être revêtues d'habits de fête et d'avoir avec elles leur lampe. Ici, la parole de Jésus met en scène deux groupes de jeunes filles qui viennent attendre le cortège quelque part entre les deux maisons. Elles apportent bien toutes leurs lampes. Elles sont éclairées. Parce que c'est la condition pour être admise dans le cortège. Donc, les lampes se composaient d'un petit réservoir, hein, avec un bec, dans lequel on trempait une mèche et hop, on allumait la mèche. Le texte dit que 5 d'entre elles étaient insouciantes, tête en l'air. Folles même, dit le texte. C'est fort comme mot, hein. Elles sont folles. Elles ne pensent qu'au plaisir d'être à la fête et non à ce qui est exigé pour en être. Elles ont sûrement de beaux habits, mais leur lampe manque de réserve. Et les 5 autres sont prévoyantes, sages, nous dit le texte. Elles réfléchissent qu'il pourra peut-être y avoir une certaine attente. Il va falloir du temps pour que l'époux sorte, peut-être qu'il y a beaucoup de monde, donc l'avance est difficile et ralentie. Un retard imprévu. Et puis, combien de temps ma lampe va rester allumée? Et là, il est même dit que l'époux a tardé à venir, parce qu'on ne savait pas exactement à quel moment il allait passer devant et on allait pouvoir prendre le chemin avec lui. Mais quand il arrive, déjà elles s'étaient endormies, hein, parce qu'elles ont attendu longtemps. Donc elles se sont endormies, c'est légitime. Et à cette époque, hein, il n'était pas facile de trouver de l'huile comme ça au coin de la rue. Quand les chants, la musique arrivent, ça y est, tout le monde se reprépare, va-t-on dire. On allume sa lampe et c'est là que les folles s'aperçoivent que elles manquent de réserve, elles manquent d'huile. Quand l'époux passe, les folles sont parties chercher de l'huile et les autres sages rentrent dans le cortège, suivent le cortège, arrivent à la maison de l'époux, entrent pour le festin et les portes sont fermées. Quand elles reviennent, ces vierges folles, elles frappent à la porte en se disant « Mais ça y est, on est bien habillés, on a nos lampes, on va rentrer. » Mais le maître de la maison dit « Je ne vous connais pas. » Pourquoi est-ce qu'il dit « Je ne vous connais pas » Parce qu'elles n'ont pas assisté au cortège. Elles avaient beau être bien habillées, avoir leurs lampes allumées, mais elles n'ont pas fait partie du cortège. Donc, elles ne peuvent pas rentrer. C'est pour ça que l'époux dit, mais je ne vous connais pas. Et la conclusion, Jésus dit, veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. On y reviendra dans un point suivant. Il ne faut pas croire dans ce texte qu'il y a 50% des chrétiens qui entreront avec l'époux et 50% qui seront dehors. Hein. Pas une notion de quantité. Mais par contre, le Seigneur non plus ne dit pas « Et surtout, je vous interdis de dormir. » Le sommeil est légitime. Dormir est légitime. Enfin, pas pendant le culte. Hein. Le moment opportun. C'est légitime. Simplement, nous devons avoir notre lampe, donc notre foi prête. Plusieurs utilités à cette lampe. Rempli d'huile et qui éclaire. J'ai amené ma petite lampe. Donc, Si je la mets comme ceci, elle ne va pas du tout éclairer mon chemin, parce qu'elle éclaire derrière moi. Ni comme ceci, là elle éclaire le ciel. Non, elle est dirigée vers le bas et elle éclaire mes pas, elle me permet de ne pas me perdre. Elle éclaire le chemin, mon chemin, elle éclaire l'obscurité, elle éclaire mes pas, elle éclaire aussi les autres. Elle me distingue en tant que futur invité aux noces. C'est mon signe d'alliance au peuple de Dieu. Quelle est l'intensité de ma lampe? Uniquement une toute petite LED juste pour mes tout petits pas, et personne ne me voit? Ou alors j'ai suffisamment de puissance pour éclairer fortement mon chemin, mais aussi pour éclairer les autres? Comme le phare dans la chanson tout à l'heure, dans le chant tout à l'heure. Ce n'est pas une bougie qui éclaire les bateaux, c'est un phare, quelque chose de puissant, capable d'être vu par beaucoup. Ma lampe, ce n'est pas non plus au secours. Je suis perdu. Que quelqu'un m'aide. Bon, je vais vérifier que j'avais des piles hein, quand même avant. Dans l'église, c'est pareil. S'il y a... Imaginez, on éteint la lumière et puis on ne voit qu'une seule âme qui... une seule foi vivante qui brille. Comment l'église va déjà s'éclairer? Mais comment elle va éclairer ce qui est à l'extérieur? Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » L'huile, qui ailleurs dans la typologie de l'Écriture est le symbole du Saint-Esprit, peut être dans cette parabole utilisée pour souligner l'importance capitale d'être né de nouveau. Quand ma lampe brille, ça veut dire que je suis sorti des ténèbres. Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et cette nouvelle naissance est indispensable pour participer à l'enlèvement. Car c'est précisément le manque d'huile qui fait la différence entre les sages et les folles. Le manque de foi. Cela, bien sûr, ne doit pas nous faire vivre dans la constante appréhension de dire « Est-ce que je suis prêt ?» À un moment donné dans ma vie chrétienne, dans notre vie chrétienne, on peut se poser la question, mais est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis vraiment prêt? Si le Seigneur me reprenait, est-ce que je serais prêt? Est-ce que j'entrerais par la porte? Ou il me dirait, non, je ne te connais pas. Il y a une chose aussi qui est à souligner dans ce texte, c'est qu'on ne peut pas emprunter. On ne peut pas emprunter la foi de quelqu'un d'autre. On ne peut pas emprunter l'Esprit Saint de quelqu'un d'autre. C'est personnel. Fais ton expérience. Que le Seigneur se révèle à ton cœur. Tu as besoin que la lumière du Seigneur entre dans ta vie. Moi, je peux t'éclairer, mais je ne peux pas te donner la foi. Quel que soit notre niveau de foi, de courage, de caractère, de conviction, de préparation, de bonnes œuvres, on ne peut pas prêter. On ne peut pas prêter. On ne peut pas partager. On ne peut pas dire, tiens, je vais t'en donner un petit peu. Moi, il faut qu'il m'en reste. On ne peut pas en donner, même si on voulait, on ne peut même pas le donner. Ni en emprunter à quelqu'un. Donne-moi un peu de ta foi, s'il te plaît. Ce sont des qualités strictement personnelles. Quelle est la conséquence d'une lampe vide ou pleine ? Bon, nous avons déjà évoqué quelques points. Être prêt quand le maître viendra, quand Jésus reviendra. Quand il nous trouvera, est-ce qu'il nous trouvera brillants de foi, dirais-je ? Est-ce qu'on brillera de foi ? Avec beaucoup d'éclairage, beaucoup de LED. C'est un bon, hein, les LED, hein, donc. Parce que le Seigneur nous dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, Matthieu 24, verset 36. Sur la montagne des Oliviers où Jésus et ses disciples sont montés, ces derniers posent à Jésus des questions sur son avènement et sur la fin du monde. Jésus parle des temps de la fin en précisant que seul le Père connaît le programme exact. Jésus rappelle les circonstances du déluge, se sert de la similitude des événements et insiste sur la préparation de chacun. Veillez et priez. Il cite dans Matthieu 24 au chapitre 37 à 44, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Il y aura des avertissements, il y aura des feux clignotants, rouges, attention. Soyez prêts. Effectivement, on est en 2014, mais entre 0 et 2014, plusieurs fois, certains ont dit « ça y est, c'est la fin du monde ». En 2000, c'était la fin du monde. En 2012, c'était aussi la fin du monde. Bon, on va arriver en décembre 2014. Il ne s'est rien passé. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a dit oui, mais en fait, il ne se passera rien. Ben non. Ce que Dieu a prévu va arriver. Et là, il donne cet exemple dans Marc chapitre 13. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laissa sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa table, ordonne au portier de veiller. Il a donné toutes ses recommandations. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Encore une fois, ce n'est pas pour que nous ayons les yeux grands ouverts du jour de notre naissance jusqu'à notre départ. Mais quand on nous remet une maison à tenir, on fait des choses à l'intérieur. Pour que ce ne soit pas... Le propriétaire rentre, ça soit le bazar, ça soit sale, ça soit pas rangé, les courses pas faites, le réfrigérateur vide. À chaque fin de la journée, le serviteur devait s'assurer que tout était en ordre, propre, rangé, le garde-manger rempli, afin que si le maître arrive en pleine nuit, forcément au moment où je m'y attends le moins, ou dans la journée au moment où je n'ai rien fait, là je vais me trouver au dépourvu, pris au dépourvu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la parole nous dit. Comment est-ce que notre tente est ordonnée? Est-ce que nous avons réglé le problème des péchés, fait le nettoyage? Est-ce que nous avons la lumière qui brille, le Saint-Esprit qui brille en nous? Parce que dans Amos au chapitre 4, au verset 12, le prophète dit « Prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il n'est pas dit, vous êtes prêts. Ça y est, vous êtes prêts. Non, prépare-toi. Donc il y a bien une action à mener. Quelque chose à faire. Pas uniquement venir le dimanche après-midi, passer une heure, deux heures et demie sur les bancs de l'église, et voilà, ça veut dire que je suis prêt. C'est pas sûr du tout que ça veut dire que je suis prêt. Donc une préparation est nécessaire. Alors la parole nous dit que si nous avons des affaires à régler avec les uns les autres, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas remettre à demain ce que nous savons devoir à régler aujourd'hui. Afin que nous nous retrouvions, nous trouvions dans un état de « je suis prêt ». Mes affaires sont réglées. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ma lampe brille afin que ceux qui sont dans les ténèbres soient éclairés. Vois Jésus au travers de moi. » Non, le Seigneur ne dit pas ça, c'est simplement des consignes à ne pas prendre à la légère, à ne pas prendre au sérieux, plutôt. Nous devons entrer chaque jour dans sa présence et être chaque jour dans sa présence. Si nous voulons que notre lumière brille avec éclat, nous devons préparer nos lampes, être purs de tout péché, prier, chercher Dieu, passer du temps à lire et à méditer la parole. Seuls ceux qui rencontrent quotidiennement Dieu peuvent avoir une lampe qui luit véritablement. Parce que si nous ne nous approchons pas de la source, notre lampe, petit à petit, va s'éteindre. Après, on ne va plus briller pour personne, même plus pour soi-même. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Un sacrifice de louange, c'est une vie passée à plaire à Dieu. Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu? On cherche bien à plaire à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous aiment. Dieu ne mérite-t-il pas au-delà? Chercher à plaire à Dieu en le priant, en le servant, en lui restant fidèle. Il y a aussi une autre illustration, c'est que ma lampe, à un moment donné, elle peut chanceler par les diverses épreuves de la vie, mais elle ne s'éteint pas. Voilà, c'est aussi ce qu'il faut retenir. C'est que les épreuves de la vie vont faire chanceler nos lampes, vont ébranler notre foi, mais uniquement l'ébranler, pas la détruire et surtout pas la retirer. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.